thématique de Manu Dibango sur Africa Radio avec Robert Braza.
Mara, boutique du dimanche matin, on va se la prendre cette Bastille-là.
Musicalement ou alors en sens unique, il est vrai que les travaux à Bastille, comme ailleurs dans Paris, dans la Manou, rendent les gens fous, mais avec ce week-end férié, peut-être ça va les calmer.
Ouais, bah, l'orientation, pour tout le monde cherche son orientation en ce moment. On a du mal d'ailleurs à passer là, ça fait des années qu'on passe là, hein. C'est jamais, il y a toujours travaux.
Et oui, travaux, mais alors travaux. C'est pour le bien, pourrait-on dire. Alors, petite remarque d'ailleurs, parce qu'en passant par là, on se dit, ben, Paris 2024 se profile, se prépare. On a révélé le logo d'ailleurs de ce Paris de ces JO, avec Monsieur Estanguet, pardon, et cette fameuse flamme qui va faire que Paris va rayonner. Mais alors, il y a encore de quoi voir venir, hein, pour nous
amis. Il a été approuvé le logo, hein.
Oui, d'ailleurs, c'est la forme d'ailleurs d'une dame. On a parlé d'ailleurs d'un logo qui était, voilà, beaucoup plus
pour une fois, il y a unanimité, quoi.
Au moins, c'est équitable et féministe.
Alors, vous avez entendu, ben, on a même pas le temps de le lancer, parce que de toute façon, c'est lui. C'est la voix de Monsieur Francis Laloupo qui est avec nous ce dimanche.
Il nous fait un plaisir, le côté musical, parce que bon, il est multiple, lui. Hein. Ah, il n'y a pas que la politique.
C'est un honneur d'être là.
C'est un plaisir, oui, de parcourir surtout autour de quelqu'un que nous aimons tous. Hein.
Myriam Makeba, quand même, il y a beaucoup à en dire. Et puis, on va en bavarder avec lui et aussi avec une dame qu'elle a bien connue, Makeba, qui était en mode backstage avec elle aussi. Elle nous arrive du Bisengabuo. Florence Titi Dipeng. Bonjour, danseur.
Bonjour, Robert. Bonjour, Manu.
On y arrive avec sa voix.
Sa voix de jeune fille. C'est pas loin de Kango. Hein. Alors, Florence, c'est une longue histoire, évidemment. Hein. Je vais directement au moment où elle faisait des chœurs avec Manu, avec Sissi.
Paraît-il
que Sissi est dans les murs
Sissi
aussi.
Sissi est à Paris, oui, on s'est parlé il y a deux jours.
Ah ben voilà, donc ça c'est une des périodes terribles de cette époque-là, de l'orchestre de l'époque. On a fait le tour du monde ensemble depuis avant, mais enfin ça c'est encore une autre histoire. Avec Flora c'est toujours brouillé, quoi.
Mais d'ailleurs c'est le Gabon aujourd'hui, parce qu'elle fait toujours plein de choses. Il y a la voix, tout, voilà, il y a l'encadrement, il y a le management.
Elle est restée dans le métier, mais toujours, de l'autre côté, quoi. Hein, Flo?
Oui, mais j'avais commencé ça déjà ici à Paris.
Ouais.
Avant
d'aller au Gabon,
oui.
Tu t'entraînais un peu.
Il fallait.
D'aller dans la même patrie. Alors, comment ça se passe là-bas?
Oh, mais très bien. J'ai été, chaleureusement accueilli. J'ai retrouvé là-bas comme une famille. J'étais parti pour un week-end.
Ah ben.
Pour un événement, pour un week-end. Et ça fait bientôt 16 ans que j'y suis.
Bon, c'est plutôt un long week-end.
Moi, j'adore les longs week-ends.
Florence, hein. Ben oui, parce que vous connaissez.
On se connaît bien. Quand je l'ai revu, là, ça m'a rajeuni tout d'un coup.
Ah
parce
ben.
Que ça m'a ramené à des années, évidemment. Non, ça fait du bien de te revoir. Parce que
merci,
vraiment,
Francis.
C'est une bouffée d'oxygène. Ben Jouvence.
Ah.
Alors, Ben Jouvence, avec une dame, le Don Manu, tu le disais, qui lie un peu tout le monde autour de cette table. Bon, alors moi, j'étais déjà plutôt heureux le jour où elle m'a laissé un message sur mon répondeur en me disant, Robert, dis à Manu que je dois l'appeler, qu'il m'appelle. Et là, je me dis, ah, et je dis au Don Manu, c'est Myriam Makeba qui m'a laissé un message. Et j'étais tout retourné.
Ah oui.
C'est des choses qui marquent.
Tu vois, j'ai un regret dans ma vie, enfin, un des regrets qu'on peut avoir dans sa vie. Francis, c'est j'aurais aimé faire un duo avec elle comme Armstrong et Ella Fitzgerald, quoi.
Je pensais que tu l'avais fait.
Non, on n'a pas eu l'occasion.
Ah oui.
On a joué sur les mêmes scènes, mais on n'est jamais passé en studio. Ah ben tu l'aurais le disque, ah forcément,
oui, oui.
Parce que ça aurait été un disque référence quelque part, quoi. Parce que étant de la même époque, chacun de nous luttant pour l'affirmation du bon côté du soleil de l'Afrique et tout ça, chacun à sa manière, bien sûr. Et quand elle venait à Paris, elle venait à la maison, quand j'habitais encore là-bas avec avec Flo, on habitait le même immeuble avec sa son
le même étage, le même palier,
voilà,
le même palier. Et
voilà.
Deux portes 10 et 11.
Et avant ça, c'est encore pire. Elle dansait le twist quand j'avais mon club à Douala. Elle était petite fille.
J'avais même pas 10 ans. Twist à Léon.
Ben ouais, ben, car, ben on va finir par le dire. Hein. Son père, c'est mon grand frère.
Ah oui, quand même, il faut bien
part,
préciser.
Quoi, tu vois, donc,
voilà.
Mais c'est vrai que c'est un regret de Manou, mais en même temps, parce qu'il y a eu des histoires, une histoire commune, l'aventure américaine, l'histoire d'habiter dans le même immeuble aussi.
Oui.
Avec Makeba, c'est plutôt pas mal quand on est aux États-Unis. La fratrie avec Hugh Masekela, il y a beaucoup de choses qui
vont lier. Il y a beaucoup de choses. Mais est-ce que la cohabitation était facile, Manu? Parce que Makeba, elle avait son caractère, hein.
Oui, mais bon, chacun, ah oui. Voilà, quand tu es à New York, tu ne sais pas pareil, il y a de l'air.
Oui. Il y a beaucoup d'espace.
Il y a beaucoup d'air, ouais. Et avec Masekela, pareil, Masekela, lui, bon, garçon, ce n'est pas pareil, instrumentiste comme moi, on avait un ami commun qui s'appelait Karefa. Karefa, il travaillait dans les diamants. Il avait un appartement au-dessous de moi à New York. Donc quand ma chère venait, Masekela, il habitait dans cet appartement-là. On a fait beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on oublie toujours de dire que c'est la bande à Makeba, à Masekela, oui. C'est eux qui ont fait le festival.
Oui, le fameux festival.
Pendant le combat
autour
du siècle.
Combat du siècle à Kinshasa. Voilà. Alors, comme tu évoques Hugh Masekela, je vais quand même faire aussi une confidence, hein, puisqu'on est dans les confidences.
Oui.
La dernière fois que j'avais vu Hugh Masekela en concert, mais c'était avec toi, parce que tu étais au programme de cette même soirée.
Exact.
C'était il y a à peu près 7 ans. C'était à 7 dans le sud de la France. Donc c'était une soirée merveilleuse. Hugh Masekela passait en première partie et Manu Dibango venait après. Et je suis allé te saluer d'ailleurs sur scène d'ailleurs.
Oh, on a fait le peu fun. Ah ouais, tu sais. Ben de temps en temps, tu passes tes vacances dans le coin, on dirait.
Clin d'œil au coach Lamine Badiane. C'était en plein été, c'est vrai.
Voilà.
Mais c'était la dernière fois que j'ai vu Hugh Masekela sur scène.
Ouais,
c'est quand même pas mal parce que Fiesta 7, ça nous rappelle Rémi. Rémi était là ce soir.
Ah ouais, c'était son festival. D'ailleurs, je l'appelais toujours Do, forcément à Rémi. Hein.
Et pour revenir à Makeba de Amanou, c'est quand même une histoire un peu avec tout le monde à différents degrés. Comment est-ce que toi, Florence, tu en arrives à collaborer avec Makeba?
Comme les choses se font naturellement. Moi, j'ai connu Makeba, je me souviens, j'étais jeune lycéenne en pension et j'avais caché une radio parce qu'on n'avait droit à rien, bien sûr. Et j'avais caché une radio on avait juste une oreillette à l'époque et j'écoutais Salut les copains. Tous les jours, j'écoutais le hit parade de Salut les copains en cachette, en pension. Et un jour, comme ça, j'entends numéro 1, Myriam Makeba, patapata. Tout d'un coup, tu vois, j'écoutais Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, et tout d'un coup, il y a un son qui vient d'ailleurs, patapata, et j'étais tellement contente que j'ai oublié que j'étais en pension, je me suis mise à chanter, à danser dans le dortoir. Évidemment, je me suis fait coller, on m'a ramassé ma radio, et plusieurs années plus tard, je me suis retrouvée donc choriste de Manu. Et c'était, Manu, tu te souviens, au Gabon, Africa Vision.
Oui, c'est ça.
En 81.
Je regrette tellement, c'est les uniques émissions.
Oui, où Myriam était là, et où j'ai eu donc cette grande faveur de pouvoir être une des choristes qui lui accompagnait. Donc pour ce grand marathon musical qu'on avait fait au Gabon en 81.
Et comment on sent quand on est, ben, comme pour Papa Manu, là en plus il y a le côté famille, mais quand on est choriste de Makeba?
On n'y pense pas. On pense surtout à ne pas faire de fausses notes.
Voilà. Sur le moment, c'est le métier, quoi.
Oui, on n'y pense pas. On se dit, bon, il faut assurer, quoi. Parce que Manu nous avait mis un gros challenge dans les bras. On était des choristes d'une pléthore d'artistes cette soirée-là. Et il fallait y aller, quoi.
Les dialectes.
Dans toutes les langues d'Afrique, c'était un moment fabuleux. Et c'est comme ça que ma première rencontre avec Myriam se fait. Par la suite, bon, j'ai perdu un peu de vue et par la faveur des Cora. en Afrique du Sud, où j'étais responsable artistique, où j'ai donc retrouvé Myriam Makeba et où chaque année, j'allais déjeuner chez elle. Tout d'un coup, c'était
plutôt famille.
Oui, je me retrouvais là-bas chaque année, donc et elle m'invitait à déjeuner en disant à tout le monde, c'est la fille de Manu.
Avec son accent.
Oui, oui. Donc, et puis, arrivé au Gabon en 2007, je sais plus, 2006-2007, j'étais en charge d'un événement qu'on appelait les Gabon Music Awards. Et je me suis dit qu'en prélude, ça aurait été bien de faire quelque chose comme ça. Et puis, d'un coup, l'idée de faire Myriam, qui venait de finir, je ne sais plus, des dates en Afrique, est venue. J'ai cherché, je l'ai appelée et j'ai pu l'obtenir pour qu'elle vienne faire ce concert exceptionnel ce mois de décembre-là à Libreville. Donc, c'était la première fois que je devenais son producteur de spectacle. J'en étais très fier. Et elle est venue, elle s'est bien prêtée au jeu avec les artistes gabonais sur place, etc. Et je ne savais pas que c'était la dernière fois que je la verrais.
Oui, puisque c'est en 2008 de Amanou qu'elle a tiré sa révérence, en sortant de scène. Alors, le contexte de sa disparition de Amanou montre quand même l'aspect politique. C'est là où notre regard se tourne vers quelqu'un. voilà le livre de Saviano, Gomorra. Saviano qui est traqué par la mafia, elle qui décide d'aller chanter au nom de la liberté.
Malgré tout.
Oui, je crois qu'en fait, quand on parle de Myriam Makeba, on pense davantage, je veux dire, à des gens comme Myriam Makeba qu'à certains dirigeants politiques, parce que ce sont des gens qui ont porté les rêves des Africains, en fait, les rêves, je dirais, les rêves fondamentaux, l'unité, les grandes valeurs qui sont aujourd'hui évidemment énoncées très aisément par une organisation comme l'Union africaine. Mais Makeba, j'ai souvent dit que c'était la femme aux mille vies.
Ah, c'est pas mal.
Oui, oui. C'est la femme aux mille vies. Et d'ailleurs, une chose qui symbolise fortement ça, c'est qu'elle avait plusieurs passeports.
On en parlait dans la première partie.
Tous ces chefs d'État qui étaient, au fond, très heureux de lui donner d'ailleurs des passeports. Elle était l'ambassadrice absolue.
Unique dans son genre, en fait. Unique dans son genre.
C'est ça. Unique dans son genre. Ambassadrice totale. Et alors, on connaît évidemment son histoire avec la Guinée de Sékou Touré, son histoire avec l'activiste Stokely Carmichael. Et puis, voilà. C'est quelqu'un qui était aussi dans une quête constante d'amour. Mais c'était une amoureuse de l'Afrique. C'était une amoureuse de l'Afrique du Sud. On avait l'impression aussi qu'elle cherchait, je dirais, à travers la musique et à travers aussi ces histoires d'amour tumultueuses. Je dirais, elle voulait combler le manque d'Afrique du Sud. Parce qu'il faut quand même rappeler que cette femme a été poussée à l'exil.
32 ans d'exil.
32 ans d'exil, avec donc ce manque absolu, cette espèce de faille affective comme ça qui l'habitait. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que sans démonstration, sans discours, ce sont des gens comme Myriam Makeba qui ont, d'une certaine manière, été les gardiens du rêve africain. Et ce rêve est encore aujourd'hui très fort. On essaye, en tout cas, de le transformer en réalité. Mais ce sont des personnes, des personnalités qui ont d'abord énoncé le rêve, l'ont identifié, lui ont donné corps, en quelque sorte.
Et l'ont vécu.
Dit, marchons ensemble vers ces matins, vers cette promesse.
Et
c'est vrai que Myriam Makeba, on peut. Je me tourne vers Manu parce que c'est aussi. C'est une époque. Hein.
Ce sont des témoins de
l'époque. Ce sont des époques parce que quand nous étions adolescents et qu'on écoutait ces musiciens, ce n'était pas simplement de la musique. C'était. C'était un message, c'était un sentiment que ces musiciens voulaient partager avec l'ensemble des Africains.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une fierté africaine?
Elle était panafricaine avant.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'était une Africaine.
C'est-à-dire, des gens comme elle, comme moi, je m'excuse, mais l'Afrique, c'est un bloc.
Voilà, c'est ça.
Pour nous. Et chacun de nous a eu une idée du panafricanisme différente. L'approche du panafricanisme a été différente. Nous, on a connu ça ici, parce qu'en Afrique, évidemment, quand tu pars à 15 ans, tu sais même parce que tu connais pas ton pays, tu connais ta ville et encore. Et en voyant tous ces Africains que Mamadou et Binetta nous ont fait connaître, l'idée du panafricanisme pour nous autres, hein, en France, est née précisément en France et pas en Afrique.
C'est ça. Effectivement. Ouais. Et Myriam Makeba était guinéenne, elle était tanzanienne, elle était tout en même temps.
Et même algérienne, après
et même algérienne. Et quand Nelson Mandela a été libéré, d'ailleurs, racontait d'ailleurs le premier coup de fil qu'elle a eu avec que Nelson Mandela lui a passé. Mmh. Et elle lui a dit, mais tiens, je t'ai vu à la télévision sortir de la prison, mais qu'est-ce que tu as changé? On dirait un chinois.
Mais cette sortie de prison, justement, quand Mandela sort de prison, bah, le Don Manu était avec Aspecta, ils étaient au pays.
Mais j'ai vécu ça chez son père.
Ben voilà.
On était en train de manger. J'étais allé en Afrique avec Arte.
Oui.
Pour tourner un film qui s'appelle toujours Silence au
pays. C'est Béatrice Soulé.
Voilà. Et nous voilà en train de manger à midi. Et puis, c'était bien quand même de voir ce bonhomme libéré en Afrique. Je sais pas la réaction que j'aurais eue si je l'avais vu à Paris, quoi. Mais tu es parmi les tiens, il y a des mômes partout, et les blancs qui étaient avec nous pleuraient. Et du coup, les petits enfants disent, papa, pourquoi les blancs là, ils pleurent? Tu vois, c'est terrible comme à simplifier l'histoire, mais toi, tu es en train de vivre ça d'une façon. Ouais. Très forte.
Ben, l'émotion, elle est toujours là, parce que, sur le coup, c'est ma grande sœur, comme j'appelle Florence, qui a les yeux comme ça, qui brillent. Mais nous, quand on voit Makeba, en fait, et on la voit plusieurs manières. Makeba, on la voit sur des pochettes, on la voit à la télévision, à un moment, on la retrouve, dans un autre champ d'action. Quand je vois le concert avec Paul Simon, je me dis, mais c'est encore elle. Et finalement, c'est quelqu'un qui fait partie d'une bande, une bande originale de la vie, quoi. Oui. Elle est vraiment omniprésente à toutes les époques.
Tout à fait. Pour moi, j'avais, faut m'imaginer, bon, jeune africaine en France dans les années 60, on n'avait que deux références, Manu et Myriam Makeba. Et c'était très fort, quoi, pour nous à l'époque, surtout pour moi, qui vivais dans un environnement complètement blanc, de pouvoir m'identifier à ces deux personnages.
Ouais, tu cherchais ta personnalité.
Je cherchais ma personnalité et je la retrouvais à travers ces deux personnages, grâce à la télévision qui existait déjà et qui me ramenait et qui me renvoyait ces images-là. Parce qu'à l'époque, dans les années 60, on n'avait pas des James Brown, etc., qui passaient dans les télévisions nationales en France. Mais on avait eu la chance de pouvoir avoir Manu Dibango et de pouvoir avoir Myriam Makeba.
Et les deux qui nous ont donné deux hymnes, quand même, les deux, qui nous ont donné deux hymnes, bah oui. Pata Pata que tu évoquais tout à l'heure.
Et Sol Makossa.
Et Sol Makossa.
Tout à fait.
Mais d'ailleurs, c'est le lien commun, votre aventure américaine dans Manu, parce que à ce moment-là, tout le monde se rattache à vous. Tu parlais des amis et frères de la Fania qui venaient et qui te demandaient littéralement l'Afrique en te disant bon.
C'était un peu la recherche des racines. Hein. Oui. En fait, c'est l'histoire d'arriver au bon moment, au bon endroit. Quoi. Il y avait Aller, il y avait Back to the Roots, il y avait I'm Black and Proud, il y avait les Shaft, hein, la Black Exploitation, et tout ça en même temps. Et ce Sol Makossa qui vient et en fait. Les Noirs américains, c'est comme ça qu'ils voyaient l'Afrique, quoi. Dans leur bande sonore et visuelle. Seulement que ça symbolisait pour eux. Parce qu'il y avait une voix africaine qui parlait pas américain, qui parlait une autre voix. Mais les cuivres dans lesquels ils pouvaient se retrouver. Et un rythme un peu. Bon, ça, évidemment, nous, on analyse ça après, parce que pendant, tu sais pas, hein, tu fais l'inspiration, tu t'es pas maître de ça, hein, ça après, quand les gens commencent à analyser, toi-même, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans, quoi?
Comme Bongo, Santa Maria.
Mais non, mais c'est vrai, au départ, tu fais ça comme tu fais d'autres morceaux, et puis bon. Le succès, en fait, un tube, c'est pas toi qui le fais, c'est le public qui le fait.
Mais c'est ça, au fond, je sais pas si. Le créateur du tube imagine à quel point, réalise à quel point le public qui reçoit à ces années-là Sol Makossa a le sentiment non pas d'écouter une musique camerounaise, puisque Manu Dibango est camerounaise, mais une musique africaine. Et au-delà de ça, quelque chose que portait aussi d'ailleurs Pata Pata,
oui.
C'est-à-dire une charge politique en réalité.
Ouais, c'est-à-dire, sans savoir.
En fait, une musique qui arrive et qui devient une musique fédératrice.
Comme un chant de ralliement. Un peu.
De ralliement,
oui,
voilà.
Oui, tout à fait.
Et dans laquelle tout le monde se retrouve. Et ça marque une époque. C'est-à-dire ça devient une sorte d'emblème. Ça devient une sorte de référence.
C'est ça. Mmh.
Une référence qui devient en fait une sorte aussi, je dirais, d'élément un peu, comment dire, comme une sorte de guide. De guide magique, de guide politique, de guide spirituel. Et au fond, pour résumer, une chanson qui devient une langue commune à des millions, d'Africains.
Et à des artistes qui le reprennent parfois.
Et même au-delà de l'Afrique.
Oui, parce que, en fait, quand tu fais ça, évidemment, tu as 10 millions de lieux de pensée que ce sera un succès, parce que tu fais plein de trucs, hein, tu fais plein de morceaux, c'est la même époque où j'ai fait Jésus Christo, qui n'a rien à voir. Oui. C'est la même époque où j'ai fait Africadélique.
Et que ton papa préférait.
Voilà, donc, en même temps, l'hymne de machin. Donc c'est une époque bénie pour la créativité. Pour moi, en tout cas, les années de créativité.
Mais est-ce que c'est pas l'époque aussi qui vous inspirait aussi?
Peut-être.
Parce que l'artiste ne peut pas être dissocié de son environnement.
Oui, bien entendu. L'environnement était pour nous magique. Et puis, l'âge dans quand ça t'arrive, tu entends tellement des sons. Maintenant, tu sais, on distingue moins les graves, les aigus, les médiums et tout ça. Tout est compressé maintenant. Donc on a du mal à imaginer l'époque où tous ces sons-là t'arrivaient, où les sons d'oiseaux pouvaient t'inspirer pour faire Idiba, ou des choses comme ça. C'est une époque, pour moi, bénie.
On va plonger dans le répertoire de Makeba ce dimanche, parce que on est drôlement gâté, hein, comme dit le Doyen Manou, en ayant non seulement Monsieur Francis Aloupo et Madame Florence Titi Dimbeng. Alors moi, je témoigne, je fais le malin, mais heureusement qu'il y a les mémoires via l'informatique et la bécane. Et juste après la réclame, Hugo va nous glisser deux titres très significatifs, Doyen Manou, parce qu'on a beaucoup bavardé. Aluta Continua, un duo avec Bongi Makeba, ou alors Le Point Levé, on pense à Cabral et à tous les autres, et puis Under African Skies avec Paul Simon, qui montre vraiment, ben voilà, toujours Graceland. Ce rêve, Graceland, cette envie d'Afrique, et puis comment ne pas jouer le Soweto Blues avec l'ami Youg Masekela, voilà. Qui est un morceau intemporel. Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
And he walked his days under African skies. Is this the story of how we begin to remember? Of rhythm and the roots of rhythm remain. Rhythm remains.
biscuit, and you want the length of his days under African skies.
C'est Manu Dibango
sur Africa Radio.
As a song speaks of the events of June 16, 1976, when the children of South Africa decided to say no to apartheid. The song was written for us by Huma Sekela. He calls it Soweto Blues.
Radio sur les 91.1 FM en Abidjan, où Mama Africa Myriam Makeba avait donné un concert en 2006 mémorable pour lutter contre l'ulcère de Buruli. C'était quelques semaines avant le coup d'état de 1999. Il y avait Lucky Dube dont on va bientôt parler avec Ludo Amanou, et Makeba qui s'engageait aussi spontanément et qui avait fait un sacré coup de gueule par rapport à des maladies et des pandémies qui étaient mises au second plan. C'était une dame qui l'ouvrait, tu le dis, toi, Manou.
Ah ouais,
facilement.
Dans le concert, dans un concert, il y avait une bonne partie de speech. Et puis une bonne partie de, tu vois, c'est à partager entre ce qu'elle racontait et la musique. Du coup, la musique, ça devenait, disons, un support pour déclamer un peu son mal d'Afrique, quoi.
Mais ce mal d'Afrique, d'ailleurs, dont Francis Laloupeau parlait, ce spleen, moi j'ai appelé ça comme ça tout à l'heure, il y avait presque l'envie de d'appartenir à tout le monde, d'être partout. Et elle faisait des fois des tournées spontanées ou des spectacles. Elle avait besoin de la scène pour continuer à mobiliser, on dirait, les Africains.
Oui, la scène, c'était son oxygène, c'était sa respiration. Hein. Moi, je n'ai pas eu la chance, comme Florence, de déjeuner ou de dîner avec elle. Mais je l'ai vue en concert et j'ai vu, voilà, moi, ce que j'ai ressenti, d'abord, j'ai eu le sentiment de voir quelqu'un, une combattante, quoi. Une combattante, oui, quelqu'un oui, une personne tourmentée.
Rare, hein, rare. C'est un privilège qu'on a eu quand même d'avoir au moins une. Hein.
Et puis voilà, il y avait, tu parlais de stress, de spleen, pardon. C'était quelqu'un qui était chargé de blues, quoi. Il y avait un blues qui était là, permanent. Il y avait comme une sorte comme ça, de, je dirais, de recherche d'un bonheur impossible. Et portait ça, ce qui expliquait aussi sa colère, ce qui expliquait son fameux mauvais caractère qu'on lui prête. Mais c'était avant tout une personne d'une énorme générosité, hein, Florence, je passe sous ton contrôle. Hein.
Et même à cette époque-là, à un moment donné, on aurait même pu être agacé par son attitude parfois, parce que on avait l'impression qu'elle se plaignait en permanence.
C'est ça.
Qu'elle se plaignait, gênait, elle était... Mais bon, en fait, c'était, oui, son spleen,
ouais,
comme tu
c'est
l'appelles.
Le, c'est le début,
oui,
hein, c'est son début.
Oui,
dans
oui,
les,
qui
dans les
demandait
bruits
ça,
de Soweto. Elle en a bavé quand
oui,
même, hein, avant de sortir de là. Hein,
oui. Et son soleil viendra ça aussi marche, de sa progéniture de Amanou, parce qu'il est vrai que sa petite fille a une voix magnifique et perpétue la voix. Lumumba aussi, d'ailleurs, en parlant de son petit-fils, oui, incroyable pianiste. Elle était heureuse, vraiment, à la fin de sa vie, de les voir sur scène.
Avec elle.
J'ai eu la chance de l'accompagner pour aller voir, justement, sa petite-fille sur une scène à Paris. Et elle tapait du pied, elle avait envie de se lever, alors qu'elle avait du mal à marcher quand on était arrivé. Et elle disait « This is music ». C'est la musique. Il n'y avait pas de genre chez Makeba. C'était la musique, en gros, de Amanou.
Oui, bien sûr, à ce niveau-là, c'est pas encore les trucs qu'on met dans les voix, là, les tunes, là, je sais pas comment t'appelles.
L'auto-tune.
Où il n'y a pas de paroles, toutes les paroles, ça a une phrase que tu multiplies, en fait. Tu peux mettre 8 fois, et tu vas fumer une cigarette dehors, et ton disque est fait, quoi. Bon, et il part aussi vite qu'il est arrivé, là, parce qu'il n'y a rien à retenir là-dedans. C'est la civilisation de l'éphémère. Elle faisait pas partie de la civilisation de l'éphémère, hein, parce que les disques, les morceaux qu'elle a fait, ben, on les retient, hein, jusqu'à présent. Je suis curieux de voir, moi, à cette époque-ci, il est vrai que chaque génération a ses codes, hein, mais je ne trouve pas, ou rarement, en tout cas, des trucs avec des mélodies, quoi, maintenant. Je trouve un savoir-faire immense, mais qui dure le temps de l'écouter, parce que les effets, c'est comme le cinéma, les effets, il y a tellement d'effets spéciaux que tu n'as plus les dialogues de Audiard, par exemple, au cinéma, où tu t'accroches sur des trucs, Bernard Billier, des machins comme ça. Maintenant, tu mets un artiste, tu peux en mettre un autre à la place, c'est pareil, hein. Les chanteurs et les chanteuses, et tu remues un peu le truc, ben voilà, et tu passes. Et il n'y a plus le même truc.
D'où le choix difficile dans les collaborations, parce que tu parlais des arrangeurs qui devaient être des couturiers pour les artistes, c'est un peu du sur-mesure. Un qui aurait eu la chance de le faire dans le dernier album studio, c'est Pascal Lokwakanza, qui avoue avoir été terrorisé et en même temps honoré d'avoir l'appel de Makeba, qui dit « J'aime ce que tu fais, j'aimerais ces chansons ». Et pour un titre, Lindelani, qui est le clin d'œil à son arrière-petit-fils, et Lokwa qui dit « Makeba peut tout chanter ». Quand elle marche dans la rue, elle chante. Elle va à la cuisine, elle chante. Et on a envie de tout enregistrer.
Ouais, un peu comme Bella Bello, d'ailleurs. Ouais.
Et même comme Bébé Manga.
Il n'a pas eu la chance de vivre aussi longtemps. Bella, c'était pareil. Hein. elle chantait tout le temps.
Et autre artiste, d'ailleurs, qu'on va écouter en duo avec Makeba, c'est Didi Gillespie. Et là, c'est la claque, après Nina Simon, le de Amanou me dit « Va fouiller par là-bas, Tito ». Et je tombe sur ce « Don't break my heart ». Et là, je me dis que Makeba se met vraiment à la hauteur de ces grandes voix américaines.
Dizzy, c'est l'une des plus belles voix qu'il y a instrumentalement chez nous. Hein. Alors, c'est quand même un des premiers Américains à avoir été à Cuba en 1942 pour amener ce qu'on appelle la musique afro-cubaine.
Pas facile à l'époque.
Non, parce que les Noirs américains ne supportaient pas à Spanish Harlem, quoi. Ouais. Tu vois, il y a toujours entre nous, il y a toujours des petits détails qui font partie de l'histoire. Et donc lui, il avait imposé Chano Pozo comme percussionniste. Ça faisait des histoires terribles. Il voulait pas quelqu'un qui vient pas de Harlem, quoi. Donc il était à travers ça, il était à la recherche de son africanité, dit-il, toute sa vie. Alors qu'il a été le premier avec Charlie Parker à faire la révolution dans la musique. Alors fatalement, quand Myriam Makeba est arrivée à New York, comme Dizzy chantait aussi, ils se sont rencontrés probablement à travers Masekela, qui était trompettiste aussi, et Belafonte. Voilà, c'était un milieu giboyeux dans ce sens-là, quoi.
Et d'ailleurs, il faudra qu'on replonge ça sur nos discussions en allant vers le parking avec le doigt Manou. Va fouiller à la fin des années 60, tu as trouvé un répertoire de Masekela et on a déniché les reprises de You Keep Me Hanging On, de You Masekela, d'une tonalité soul blues. Il a un look avec un blouse en cuir et il vit à Los Angeles.
Et c'est ça donc, aussi, avec les stewards, les vines, avec lesquels donc ils vont faire ce festival. Ils ont fait énormément de trucs, on sait pas toujours. Nous tous, on s'est retrouvés à Kinshasa en 74 pour le combat du siècle avec Don King. Et voilà, le film a mis 20 ans ou 30 ans à sortir parce que Don King est passé par là et comme il était un peu compliqué, les avocats ont mis 20 ans à résoudre certains problèmes, quoi. Avant qu'on voit le film.
On va donc écouter ce Don't Break My Heart, duo de Mama Africa avec Dizzy Gillespie, avant tout à l'heure de se donner une partie de la route. Mm-hmm. Le jukebox de Manu Dibango
avec Robert Tito sur Africa Radio.
Don't break my heart.
Don't break my heart, jewel of desire. Don't break my heart.
I'm rocking on into my nonchalance. Don't break my heart, gentle heartbreaker. Don't break my heart. Lost in the maze of reverie. Devil lights your eyes, but then between your eyes and me, I'll show you just the way I burst into the flame.
Out from your heart, my tender tiger.
Smiling mama, I soothe your heart. But if you want, in your own nonchalant way, I'll have no heart. Little heartbreaker, please don't break my heart.
La discothèque de Manu Dibango
sur Africa Radio.
Bongo
sur Africa Radio.
Avec Dizzy Gillespie, ça date de 1991, pour le dire à la belge, et Makeba donc est parti rejoindre le paradis des artistes, c'était un 9 novembre 2008, ça paraît tellement proche de Amanou, tu revenais d'Espagne.
Oui, quand j'ai appris cette nouvelle, ces voyages-là, des fois tu rentres d'un voyage et puis tu apprends une mauvaise nouvelle, soit à l'aéroport, ou soit que les gens attendent que tu arrives à la maison. Et tu tombes sur ça, le temps de... Et en général, c'est la veille, tu as fait un super concert. Donc tu es encore dans les étoiles, et la réalité te rattrape blâme, quoi. Tu vois, j'ai eu ça quelques fois dans ma vie. Donc, cette fois-là, j'avais du mal, parce que on s'était vu avant, on était à Wolfsburg, au festival de Wolfsburg.
En Allemagne.
Voilà, et les deux... Raymond était encore chef d'orchestre,
tout à fait.
De Makeba à cette époque-là, quoi. Donc on a fait Wolfsburg chacun sur un plateau, quoi. Et c'est la dernière fois qu'on s'est vu, jusqu'au moment où j'ai appris le truc, quoi.
Et c'est vrai que Myriam Makeba, c'est la Guinée aussi qui résonne, Francis Laloupo. Quel croisement, enfin on parle de l'histoire et de tout ce qui est en ce moment. Ça fait beaucoup.
Oui, il faut dire qu'à l'époque, elle n'est pas partie à l'époque en Guinée pour rien, parce qu'elle est partie au pays de Sékou Touré, l'homme qui avait dit non au général de Gaulle, celui qui était considéré comme un des grands militants de l'indépendance. Et la Guinée était perçue à l'époque par Myriam Makeba et d'autres militants panafricains comme la terre promise.
Oui, c'est le lieu, havre de liberté.
Promised land.
Voilà, le lieu à partir duquel, en fait, tout allait devenir possible. C'est pour ça que beaucoup, c'était effectivement.
L'Algérie aussi.
c'était l'Algérie aussi, bien sûr. L'Algérie aussi, terre promise aussi, évidemment. Terre de projection de tous les rêves panafricains. C'est vrai que j'aurais voulu savoir si elle était encore de ce monde, son regard sur l'actualité guinéenne aujourd'hui. Un pays quand même, aujourd'hui, il y a un incendie absolument inquiétant. Il y a des événements malheureux, évidemment, cette confrontation malheureuse entre un chef d'État et son peuple. Et c'est ça aussi cette époque.
C'est une époque. C'est redoutable, cette histoire.
Il y a cette époque-là, donc celle d'aujourd'hui, que je peux mettre en contraste par rapport à l'époque qu'on évoquait tout à l'heure, quand tout devenait possible, ces années 60, évidemment, 50-60, où évidemment il y avait seulement Kossa, il y avait Patapata, où il y avait ces musiques.
Les rêves
dans lesquels communiaient tous les Africains. Et puis il y a aujourd'hui, évidemment, cette actualité. C'est le pays du Mira Makeba, quand même, qui est en train de brûler aujourd'hui.
Francis, il n'y avait pas encore quelqu'un qui avait lutté 27 ans pour une certaine idée de l'Afrique. Hein, il n'y avait pas encore de recul.
De recul.
Hein, toi, les années 60, il n'y avait pas de recul. Donc on ne peut pas comparer absolument. Quoi. C'est là où ça fait mal, justement, c'est qu'il y a eu 27 ans quand même de...
Oui.
Voilà.
Et la clepside retourne et on est arrivé au bout de cette émission, parce que Hugo nous fait signe, c'est déjà la fin de cette maraboutique, Florence. Eh ben dis donc, déjà on a été heureux de te voir et
merci
de t'avoir
Robert,
avec nous.
Moi aussi.
J'espère qu'on va pas mettre 20 ans avant de se revoir.
Ah ben certainement pas, nous ce sera même pas 20 ans, ce sera une semaine, 7 jours.
Dans une semaine on sera heureux évidemment. Malheureux quand on se quitte, heureux quand on se revoit, donc c'est un éternel recommencement. Changement d'heure passant et tout ça, tout le monde est au clair. Et donc on vous donne merci Francis évidemment,
merci à vous.
Florence, merci. Ça a été bien fleuri, hein. C'est une émission très très fleurie autour de Makeba, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
Il sera donc 9h en temps universel, même horaire du côté d'Abidjan, 10h à Paris sur les 107.5 FM.
Et comme d'habitude.